Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes sortis alors de ce week-end aussi fatigant. Je vous espère en forme et j'espère que vous êtes en bonne santé et vous nous suivez alors sur la 93.5. Vous savez que quand il sonne 11h sur votre radio, déjà c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Nous sommes aujourd'hui au lundi 9 septembre 2024. Merci de nous choisir pour ce premier numéro de l'émission pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Victor Betoumega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lesso au micro. Comme toujours, vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Et nous vous saluons d'une manière fraternelle, vous tous qui nous écoutez partout au Togo. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, à savoir notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook et également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et d'ailleurs, et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi et vous savez que l'équipe, alors de lundi, est déjà en place. Muriel Enyang, bonjour.
Non, Pascal, ce n'est pas normal. Tu sais, c'est pas du tout normal.
Comment ça, ce n'est pas normal?
Il y a des gens qui sont arrivés avant moi.
Oui.
Et on doit les saluer d'une façon logique pour décevoir, pour décourager ceux qui ont l'habitude de venir en retard.
C'est, ah non, mais tu confirmes que tu es venu en retard.
Oui, je suis venu un peu en retard. Mais
non, mais attends. J'espère que tu vas bien.
Moi, je vais bien. Super bien. Je remercie Dieu. Et puis, je souhaite que la même forme soit au niveau de tous les Togolais.
Mmh. Ouais. Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Souhaiter prendre guérison tous ceux qui sont malades, qui nous suivent actuellement. Les parents qui sont en train de se préparer pour la rentrée scolaire, beaucoup de grâce. Et que les portes s'ouvrent pour que les parents puissent trouver les moyens pour que les enfants puissent aller à l'école. Week-end également était un peu mouvementé par des enterrements de gauche à droite. Je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées aux parents, aux amis, aux frères, aux sœurs qui ont perdu les leurs au cours de cette semaine, au cours de ce week-end, et l'enterrement a eu lieu. Bonne semaine. Et bon début de semaine également à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM.
D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette fois-ci, je vais bien respecter ce que vient de dire Uriel pour ne pas donner la parole à Didier qui est venu aussi en retard. Donc, je donne plutôt la parole à Gosson, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que tu as bien passé le week-end.
Bon, partiellement. Toi, tu le sais.
Oui.
Jusqu'à ce matin, je n'étais pas sûr de pouvoir répondre présent à l'émission.
Tout à fait.
Déjà, pour ceux qui ont l'ouïe fine, ils doivent sentir que j'ai la voix un peu enrouée.
Effectivement, donc, je connais bien cette voix.
Un rhume qui m'a terrassé, mais je n'ai pas voulu me laisser abattre. Et donc, pour le plaisir des auditeurs et surtout des fidèles lecteurs de Liberté, je me devais de répondre présent.
Voilà, merci d'avoir répondu présent justement à ce rendez-vous, à cette invitation de Club de la Presse. Tu le sais très bien, ça me fait toujours plaisir d'être avec vous pour animer cette émission, puisqu'on se sent plus en famille quand on est au club, n'est-ce pas Didier Assoba?
Oui, naturellement, en famille, et en famille on laisse toujours le soin aux aînés de prendre le devant,
même si on est en retard,
de se présenter d'abord et ensuite les juniors, les cadets suivent. Donc, je ne suis pas du tout gêné de prendre la parole en dernière position. Bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour naturellement à mes aînés en studio et bien des choses à tous ceux qui nous suivent un peu partout à travers le monde, Togolais qui nous suivent nombreux dans la diaspora, nous les saluons.
Tout à fait, ils sont très nombreux à nous suivre dans la diaspora à travers notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube et également des applications telles que Otia et non seulement cela, même il y a le www.canalfm.com sur lequel également on nous suit en direct à travers le monde entier. Merci à vous tous qui nous suivez à travers ces différentes plateformes digitales. Alors, chers confrères, nous démarrons l'émission de ce jour avec ce titre de Mega Info. Nous savons que déjà dans ce week-end, il y a Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant qui a été conduit alors à sa dernière demeure. Et Mega Info, il est vous titrez sur le sujet « Il est parti, l'homme de l'unanimité et du consensus ». Il y a également Togo Matin qui a titré sur le sujet, puisqu'il y a un hommage national qui a été organisé à l'intention justement lors de l'illustre disparu. C'était le vendredi à la présidence de la République et le samedi, c'était l'enterrement avec la présence effective du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et Togo Matin écrit « Monseigneur Bariga, le Togo a perdu un faiseur de paix, un bâtisseur de ponts ». Alors, Hulel, finalement, on a perdu vraiment celui-là qui faisait l'unanimité de tous.
Oui, c'est cela, mais il y a une expression que tu viens de prononcer qui m'a beaucoup intéressé. J'avais eu cet échange-là avec un pasteur qui m'avait finalement donné raison. Cela fait très bien que tu la prononces tout à l'heure, que Monseigneur Nicodème Bariga a été conduit dans sa dernière demeure. J'avais refusé ça. Est-ce à dire que la dernière demeure de quelqu'un, c'est dans la tombe? Instinctivement, cela m'était venu en tête comme ça, puisque tout le monde le dit. Mais quand il avait prononcé ça, au cours d'une messe, après, je me suis approché de lui, je lui ai demandé, « Merci, mon pasteur, est-ce que la dernière demeure de celui qui vient de mourir, là, c'est dans la tombe ?» Il a gardé un peu de silence et dit, « Tiens, mon frère, c'est ce que tu dis, c'est sérieux, hein, je te reviens, après on a échangé, il m'a dit qu'en réalité, cette expression, nous la prononçons ici, mais ce n'est pas normal. Dire que quelqu'un a été conduit à sa dernière demeure, ça veut dire que, même du moins si on pouvait dire qu'on a enterré la personne ou bien le corps, on a inhumé la personne, mais si la dernière demeure de celui-là qu'on a enterré, c'est dans la tombe, ça veut dire que nous ne croyons pas à la résurrection, ça veut dire que notre foi est vaine. Bon, j'avais fini par convaincre quand même. Bon,
c'était une part... Mais est-ce que tu as convaincu de
l'infini? C'est moi qui ai fait le constat.
Non, même les termes inhumés, enterrés, tout ça. Si on doit être dans la logique, que tu développes là, on ne doit jamais utiliser ces termes parce qu'on ne va jamais enterrer l'âme, on ne va jamais enterrer l'esprit, en fait, la personne.
Non, on n'a jamais dit qu'on enterre l'âme.
Oui, celui qu'on enterre, c'est le corps.
C'est le
corps qui a vécu au milieu de nous, réside quelque part. Nous nous considérons que comme c'est une dernière demeure pour la personne, parce que nous voyons encore la tombe, on estime que tel a vécu parmi nous, il est désormais ici. Ça reste une vue de l'homme. Maintenant, si on va rentrer dans l'esprit, dans la religion, les termes inhumés, enterrés, tout ça, on doit même les bannir.
Non, donc ça reste des expressions. Apparemment, je pense que tu ne m'as pas compris.
J'ai compris.
Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'on a enterré l'âme, qu'on a inhumé l'âme. Non, on enterre le corps, nous sommes d'accord.
Oui.
L'inhumation,
oui.
C'est l'expression même, oui. C'est mettre sous terre le corps qui n'est plus vivant.
Et donc on n'enterre jamais le corps d'un homme,
voilà,
et la tombe.
Voilà.
La dernière demeure
si on pouvait préciser la dernière demeure du corps, alors que c'est ce qui est difficile pour les gens. Ça vaut la peine. Parce que même j'ai entendu des prêtres au cours de ce temps du 4 août jusqu'au 7 septembre, beaucoup le prononçaient. Beaucoup le prononçaient et il vient justement de révéler la réalité, la dernière demeure du corps. L'esprit, l'âme, c'est autre chose. Donc c'était une parenthèse.
D'accord.
Le débat peut se continuer.
Dieu merci que voilà. C'était une parenthèse.
D'accord. Donc, quitte à faire le cours à Uriel sur la spiritualité du corps.
Non, moi je suis
enseignant, je donne des cours. Le domaine que tu veux aborder là, et c'est pour ça que j'ai pu te préciser.
Ça dépend
celui qui habite la terre, c'est le corps.
C'est, La parenthèse a été fermée tout de suite, mais je voudrais quand même que tu reviennes plutôt sur Monseigneur Malika.
Je l'ai fermé, c'est lui qui revenait là.
D'accord, s'il te plaît, vas-y.
D'accord, tu sais, je pense quand même que les Togolais ont rendu hommage à ces grands hommes depuis les quatre. Ça ne saurait suffire. C'est pourquoi vous posez encore la question pour que nous, ici, autour de ce plateau, on réaffirme notre entendement, notre conception, notre appréciation sur cet homme qui a fait l'unanimité, qui a fait le consensus. Je n'en veux pour preuve qu'au cours de cette période, jusqu'à la journée de vendredi, samedi, nous avons tous vu tout ce qui s'est passé. À la messe d'enterrement, vous avez vu, il n'y avait pas un musulman au dehors, tous étaient dedans. Il n'y avait pas un fidèle de l'église, des assemblées de Dieu au dehors, tout le monde était à l'intérieur. Les gens avant avaient annoncé leur présence à l'inhumation. Donc c'est pourquoi nous nous trouvons juste que le monsieur, bon, on sait quand même que nous n'est parfait, sauf le Seigneur lui-même, qu'il soit parfait, mais quand même, il a fait un effort pour demeurer une référence, un modèle, que ce soit de par sa foi, de par ses actes, de par sa conduite et de par ce qu'il a été dans son ensemble. Il a été un modèle et il restera toujours un modèle. Bon, peut-être pour quelqu'un qui ne voudrait pas être franc dans son analyse, le monsieur demeure un homme de consensus, un homme d'unanimité qui aujourd'hui a fait bouger des quatre coins du monde de grandes personnalités pour venir assister à son inhumation. J'avoue franchement que le Togo a perdu beaucoup parce que, vous savez, quand quelqu'un décède, une chose, c'est le titre qui l'occupait, c'est le poste qui l'occupait, c'est son statut social et tout. Mais moi, ce que je vois, c'est l'intelligence.
Il était un homme très intelligent.
C'était un homme très intelligent, d'une intelligence rarissime. Ça, il faut l'avouer. C'était un homme très intelligent. Nous savons quand même que la plupart, peut-être c'est un mauvais constat ou une mauvaise appréciation, la plupart de ces anciens du clergé, c'est des grosses têtes. Mais lui, ce fut une exception quand même. Nous allons tous prier pour que Dieu inspire des gens, pour que Dieu sorte des gens qui puisse nous inspirer, qui puisse nous guider. C'était un berger exceptionnel. Aujourd'hui, le monde entier lui a accordé les hommages qui lui sont dus. C'est tout à fait normal.
D'accord, c'est tout à fait normal. Oui. Jacques, alors, quand on prend Togo Matin au mot, par rapport à ce que Togo Matin a écrit aujourd'hui, on dit que Togo a perdu un faiseur de paix, un bâtisseur de pont. Est-ce que vous estimez aussi que c'est un faiseur de paix ou un bâtisseur de pont qui a été, enfin, que nous avons perdu?
Bon, vous savez, j'ai assisté à l'hommage rendu par le gouvernement à Monseigneur Bariga la dernière fois à Lomé 2, également à l'église catholique de Granaoué le samedi. Il fallait être dans la salle parce que c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Adige, qui a prononcé, disons, le message qui a dérivé l'oraison funèbre du gouvernement à l'église catholique. J'ai suivi un peu également à l'église Monseigneur Obang, qui est venu du Congo, qui a donné également son message. Il faut reconnaître que Bariga était une personnalité quand même dense, de par ce que Uriel disait tout à l'heure, de son intelligence et surtout de son humilité. Pour ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, nous ne pourrons pas démentir ce que nous sommes en train de dire ici. Et c'est quelqu'un, lorsque vous voulez le voir et qu'il est accessible, il vous reçoit. Nous, on a eu la grâce de le rencontrer à plusieurs reprises avant qu'il ne quitte ce monde. Il faut reconnaître que c'était une personnalité quand même qui connaît un peu la politique togolaise, qui connaît également l'ensemble des acteurs politiques ici au Togo, pour avoir rencontré individuellement ces politiciens, et ils ont œuvré ensemble pour retrouver ce qu'on peut appeler le consensus. Personnellement, avec la rencontre que j'ai eue avec lui, on était centré sur le dialogue de Togo Télécom. Il fallait voir ce qui s'est réellement passé au cours de ce dialogue, comment il a œuvré pour que la paix revienne entre les acteurs. Et comme Amouzou Diakpa l'a dit, c'est vrai, c'est un artisan de paix. C'est quelqu'un qui ne cherchait pas les conflits au sein de la nation. Mais Pascal, si tu le permets, j'allais être à la place, par exemple, de ceux qui nous gouvernent, nous dirigent. C'est des célébrités quand même qu'il faut rendre hommage quand ils sont vivants. Vous voyez, tout ce qu'on a entendu, que ce soit à Lomé 2, que ce soit à l'Église catholique, si Monseigneur était vivant, il était assis, il écoutait tout ce qu'on disait de lui étant vivant. C'est des choses quand même qui redonnent l'espoir, la force de pouvoir continuer. Mais c'est à la mort qu'on voit ce genre de choses. Vous savez, c'est quand quelqu'un meurt, on dit non, il était bon, il était ceci, il était cela. Mais de son vivant, on ne le dit pas. Vous voyez, si Monseigneur était assis dans sa cathédrale et on lui faisait ses éloges, je crois que ça devait être une bonne chose pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il était en train de faire. L'autre remarque, pour m'arrêter, ce que j'ai vu la fois passée, que je n'ai pas compris, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de ceux qui décorent les personnalités, même à titre posthume, souvent ça se fait, mais le constat au cours de l'hommage rendu par la nation à Monseigneur Barriga, je n'ai vu nulle part ni le Premier ministre, ni le président de l'Assemblée nationale décoré à titre posthume Monseigneur Barriga, je ne l'ai pas vu. Et à l'Église catholique, moi je m'attendais, peut-être Messi dit qu'il voulait le faire à l'Église catholique, mais finalement cela aussi n'a pas eu lieu. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce que de son vivant il avait été décoré, et bon, quand il est mort on ne va plus le faire, je ne sais pas, parce que souvent ces gens de personnalité, on les décore quand même à titre posthume, même s'ils sont morts. Et je ne sais pas si c'est parce qu'au sein des clergés catholiques, on ne se marie pas. Et peut-être que c'est à cause de ça qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que même si on ne l'a pas fait, ils peuvent laisser ça au niveau peut-être du clergé catholique pour que cela constitue. On puisse mettre ça dans les musées. Peut-être Gosson pourra nous expliquer parce qu'il ne suis pas catholique. Je ne sais pas comment cela se fait. Mais il faut reconnaître que je m'y attendais à ce que le gouvernement puisse le décorer à titre posthume. Mais cela n'a pas eu lieu. Mais quand même, il faut reconnaître que l'hommage rendu à la nation, à Monseigneur Barriga, la dernière fois au niveau de l'Omé 2, c'était quand même très émouvant, très touchant. Et ceux qui sont également allés à l'Église catholique, vous avez dû constater qu'il y avait vraiment une tristesse qui traversait les visages et les cœurs par rapport au décès de Monseigneur Barriga.
D'accord. Jacques, c'est vrai que vous parliez entre-temps alors de la présence de l'archevêque de Kinshasa, c'est bien le cardinal Fridolin Ambongo.
Autant pour moi, c'est pas congolais.
Tout à fait. Donc, il est aussi le président alors du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Merci beaucoup pour
cette précision. Il est congolais, c'est ça?
Il est congolais, oui.
Ok, d'accord.
Kinshasa, il est congolais. C'est plutôt le nom, je pense que
voilà, Fridolin.
Oui, ah, okay, on voulait corriger.
Merci.
Voilà.
Alors, merci, Pascal.
Non, de rien, Jacques. C'est la moindre des choses. Jacques disait finalement, on a besoin aujourd'hui d'autres Monseigneur Barriga au Togo, c'est ça?
Il y en a, hein.
On a besoin des Monseigneur Barriga, voilà. Ça, c'est un fait, c'est une évidence. Surtout que si nous voulons véritablement construire une société de paix, une société réconciliée avec elle-même, où tous les citoyens vivent en harmonie les uns avec les autres, oui, on a besoin de Monseigneur Barriga. Peut-être pas à la dimension de l'archevêque, mais à la dimension individuelle, dans les maisons, dans les quartiers, dans les villages, dans les localités,
dans les communautés,
on a besoin naturellement des Monseigneur Barriga qui continuent de jouer un tel rôle de faiseur de paix et de bâtisseur de ponts. Parce que les difficultés que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui, y compris à l'échelle nationale, c'est justement parce qu'à des moments donnés, il n'y a pas de gens qui acceptent faire la paix Et il n'y en a pas, naturellement, qui fabriquent des ponts ou qui font des ponts entre les différents courants de la vie, je dirais, sociopolitique ou, si vous voulez, socio-économique du Togo. Et donc, dès lors que le pont est rompu entre les différents courants, entre les différents groupes et individus, vous avez une société en conflit, conflit latent ou conflit manifeste, chacun pourra l'apprécier, mais est-il que on sentira quand même qu'il y a un vide, il y a un manque entre un certain nombre de groupes et d'organisations. Et donc, à partir du moment où on a vu ce que l'œuvre et les actions de Mgr Barriga ont pu apporter dans la vie du Togo et dans l'apaisement et dans le vivre ensemble que nous cherchons, le constat ou la conclusion, c'est que on en aura besoin des Mgr Barriga. Oui, c'est Nicodème, Anani Nicodème, si vous voulez, Barriga Bélissa est parti, mais il est parti en tant que lui, mais son esprit, sa vision, sa façon de faire les choses, on peut aller à son école. Des gens peuvent accepter aller à son école, accepter jouer le rôle qu'il joue. J'ai entendu tout à l'heure mon aîné Jacques dire qu'il y en a. Ben, s'il y en a, ben, ok, il faut qu'on leur fasse confiance et qu'on leur confie des rôles, naturellement, des rôles de faiseurs de paix et de bâtisseurs de ponts. Naturellement, on aurait pu peut-être parler ou ne même pas parler de Mgr Barriga aujourd'hui si, en un moment donné de la vie togolaise, on n'a pas décidé de lui faire confiance et de lui confier une mission, naturellement, de faiseur de paix et de bâtisseur de ponts. Donc, je dirais que à cette époque-là, on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Et donc, on a eu le résultat qu'il a eu à donner parce qu'on lui a fait confiance, tout le monde lui a fait confiance. Et il a pu jouer le rôle qu'il a joué et nous a mis sur la piste, et je dirais même, pour aggraver un peu, sur la piste de la tentative du processus de réconciliation en cours.
D'accord.
Et donc, si on peut continuer à faire confiance à autant de personnes qui ont le même profil ou qui ont au moins le même esprit, les mêmes états d'esprit, et pour apporter leur pierre à la construction de la nation togolaise que nous voulons paisible, que nous voulons réconcilier avec elle-même dans les jours, dans les mois, dans les semaines ou dans les années à venir, oui, il faut qu'on continue par mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et qu'on laisse de côté les a priori et qu'on fasse confiance à les Mgr Barriga qu'on a encore ou qui pourrait arriver, qui pourrait naturellement émerger et qui pourrait aider à faire quelque chose d'autre. D'accord. Dans le Togo.
Oui, mais Mgr Barriga était un diplomate fin, et ça se transparaît dans ses propos. Et quand on lui a même d'ailleurs confié le rôle alors en tant que président alors de la CVJR, on a vu comment il a su jouer également ce rôle. Mais est-ce que finalement, vous avez compris qu'il est arriver quand même au fin de ces objectifs avec la CVJR?
Bon, merci Pascal. Nous sommes plus de 8 millions d'âmes. Convenez que vous ne verrez jamais les 8 millions être d'accord avec la manière dont Monseigneur a conduit ce processus. Là, Togo Matin qui titre, le Togo a perdu un faiseur de paix, un bâtisseur de pont. Si sur les 8 millions d'âmes, on arrive à écrire ça, doit-on comprendre que les faiseurs de paix et les bâtisseurs de pont sont si rares au Togo que ça? Je ne pense pas. Peut-être que c'est de par sa position d'archevêque ou de monseigneur, ou alors de par la mission qu'on lui a confiée, qu'il a pu faire voir l'étendue de sa diplomatie. Parce que moi, je reste foncièrement convaincu, contrairement à Didier, qui a essayé de tourner autour du pot en disant les faiseurs de paix dans les maisons, dans les familles. Il nous faut des faiseurs de paix à notre Assemblée nationale, à notre futur Sénat, au sein du gouvernement, au sein des députés, partout.
il faut des faiseurs de paix, des bâtisseurs de pont.
Donc, à Pascal, national, je l'ai dit.
Pascal, Gosson, que tout le monde connaît comme travaillant dans un journal critique, ne s'est jamais retenu d'aller vers des autorités à la recherche de l'information. Fort heureusement, ces autorités nous ont toujours bien accueillis, nous ont toujours fourni ce qu'il faut. Que comprend par là?
Ça veut dire que vous êtes aussi bâtisseur de pont.
Même pas. Au-delà de ma tendance ou de mon esprit critique, que les autorités, beaucoup d'autorités savent, du moins qu'ils sont convaincus que derrière ma personne, ce n'est pas du mal que je veux pour notre pays. Ils se sentent parfois contents de nous livrer certaines, de nous dire certaines choses. En ce sens qu'on ne fera pas, on n'en fera pas un mauvais usage. Donc, parler de diplomate en la personne de Monseigneur Bariga, c'est vrai. Mais je le répète encore, quand on va à la messe et qu'on fait des homélies, on fait des finales, bon, les expressions me manquent, en fait, ce n'est pas du décès dont on parle, mais on s'adresse aux vivants. Nous qui sommes encore là, on doit s'inspirer des actes de celui dont le corps va être porté à sa dernière demeure pour faire du bien ou alors pour
bien employé.
Tirer le beau, être utile afin que on en arrive non pas à attendre notre décès avant de nous louer, mais pendant qu'on est encore vivant, qu'on arrive à en parler.
D'accord.
Voilà.
Uriel, on va quitter le sujet, mais je pense que vous avez quelque chose à dire hein, rapidement.
Oui, c'est par rapport au souhait de Jacques sur le fait qu'on devrait en réalité comment distinguer
un titre posthume.
Ah, titre posthume. Oui, bon, en tant que catholique. Je voudrais juste souligner que de tels types de personnes, quand elles décèdent une personne, il faut d'abord lire son testament. Il faut lire son testament pour voir ce qu'elle a préféré à sa mort. C'est très important et ça existe partout. Il se peut que feu Monseigneur n'ait pas souhaité cela. Il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas voir dans le déroulement des obsèques de quelqu'un, mais c'est la personne qui l'a souhaité. Que je ne veux pas que ça soit ainsi, je ne veux pas un cercueil en or, je ne veux pas, je ne souhaite pas, ma foi ne dit pas ceci.
Et s'il n'y avait pas alors de testament, comment on fait?
Non, c'est très rare.
D'accord.
C'est très rare. Très, très rare. C'est très rare.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet.
Monseigneur Bariga... Attends.
Non, mais c'est... Monseigneur Bariga a eu à présider une institution de la République.
Non,
oui, j'ai compris ce que tu veux dire.
J'explique ce qui existe. C'est pas ce que je veux dire. Je n'entends pas dire.
Donc, j'explique ce que...
Laisse-moi dire rapidement.
Monseigneur Bariga a eu à présider une institution de la République. Donc, quand on préside une institution de la République, on ne s'appartient plus, on n'appartient plus aux familles. On appartient à l'État. Et la plupart des... Pourquoi l'État n'a pas fait hommage à Monsieur Tout-le-Monde, mais c'est à Monseigneur Bariga qu'on a fait?
Non, ça n'a aucun lien avec ce que je viens d'expliquer.
Non, sans un lien. Parce que Monseigneur Bariga, on lui a rendu hommage en tant que président d'une institution de la République. Pas en tant que Monseigneur, sinon il y a beaucoup de Monseigneurs qui meurent. Et on ne fait pas d'hommage national à l'homme d'eux. On fait les hommages ou les messes d'enterrement dans les églises. Mais si on a tenu à faire ça, c'est parce qu'on reconnaît à la personne, ou du moins à l'illustre disparu, sa qualité de président d'institution de la République. Et donc à partir de là, il y a beaucoup de choses
qu'il ait voulu ou qu'il ait écrit quelque part avant de mourir, est-ce qu'il a déjà écrit quelque part qu'on lui rende hommage le médecin? Donc il y a l'État qui récupère, il y a la responsabilité de l'État. On ne va pas dissoudre ça, on ne va pas le dire. Moi, je ne fais pas.
Voilà, on va quitter le sujet. Merci beaucoup.
Non,
merci
à vous. Non, Pascal, s'il vous plaît. Pascal, ce que. Non.
Jacques.
Non, ce que nous disons. Moi, je dis peut-être au niveau du protocole de l'État et ce qui décore, par exemple, les gens. Peut-être que c'est un oubli. Vous comprenez? Ça peut être également peut-être qu'on l'avait décoré avant et que peut-être qu'il est arrivé au degré des décorations. Il ne fallait plus encore le faire. Mais je ne pense pas que Monseigneur Barriga ait écrit dans son testament qu'il ne voudrait pas que, à son décès, qu'on le décore à toute posthume. Je ne pense pas. Si, ce qu'il allait faire, peut-être, il allait écrire de ne pas lui organiser les hommages nationaux. Ça, c'est ce qu'on prend. Une décoration, c'est quoi? Par rapport à l'hommage national rendu à la personne. Ça, c'est le jour et la nuit. Donc, je crois que peut-être, ça peut être une omission de la part de ceux qui ont organisé, ou soit, peut-être qu'on l'avait déjà fait et l'État n'a plus trouvé l'opportunité de pouvoir encore le faire. Mais je ne pense pas que c'est un testament qui...
Donc, tu parles d'une décoration à titre posthume. Oui. Donc, si c'est à titre posthume, on n'a plus besoin de considérer si quelque chose était déjà fait. On n'a plus besoin
voilà,
de...
Voilà, mais je dis peut-être que c'est un oubli. Ça peut être un oubli.
Voilà, non, ça peut être un oubli. Mais ça, vous le savez très bien, c'est-à-dire...
T'as bien fait de le balancer, ça.
Voilà, avec ce premier test même, d'ailleurs, de l'entraîneur du Bombay d'arrêt, je veux bien parler alors de ce match du 6 septembre dernier. C'était le vendredi. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. Hein, et le stade Kégué était plein à craquer le vendredi. Et ça veut dire que le 12e homme a répondu présent. Mais c'était la déception.
Déception où?
Parce que un nul à domicile, est-ce que ce n'est pas une perte?
Le Sénégal a fait match nul avec le Burkina. L'Espagne a fait match nul avec la Serbie. Et pourtant, ces stades-là étaient pleins. Qu'est-ce que vous voulez appeler par déception? Je le précise encore, moi je continue de taper dans le football. Donc je sais de quoi je parle. Personnellement, je l'ai dit à quelqu'un le samedi dernier, je considère ce match comme une victoire pour Daré personnellement. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est là où il faut relever la responsabilité de la fédération ou du ministère. Notre championnat est à l'arrêt. Tu conviens avec moi. Notre championnat de football, les gens ne jouent plus. On voudrait que l'entraîneur aille trouver qui soit en jambe pour jouer, si ce n'est ceux qui sont à l'extérieur et qui continuent d'évoluer dans les championnats de première, deuxième ou même millième division. Du moment où le championnat est à l'arrêt, ça embête. Prenez le cas de Adrien Rabiot de l'équipe de France. Ben, à ce jour, il n'a pas encore trouvé de club. Didier Deschamps a été obligé de le mettre de côté. Pourtant, Rabiot est un bon joueur. Donc, pour en venir à ce score, je le précise que Daré aurait gagné ce match, que peut-être ça allait lui monter à la tête. On n'a pas perdu. C'est ça le pire. On a fait match nul. Je le précisais ici.
À domicile.
Même si Jacques disait qu'on ne doit plus m'inviter ici les vendredis parce que c'est comme si je porte malheur. Bon, je sais que c'est en blague. Mais il faut être honnête envers soi-même. Je vous ai dit ici que je souhaite que Daré gagne ce match. Mais j'avais précisé que même s'il n'y a pas de victoire, il faut donner le temps au temps. Un match, on va encore jouer ce soir. Je crois bien.
Oui, bien sûr.
15h.
À partir de 15h.
Si on ne perd pas, j'ai encore espoir. Mais ce n'est pas facile dans ces conditions, dans les conditions dans lesquelles on est en train d'aller à ce tournoi-là, de rêver tout de suite à une victoire. Mais, je l'avais précisé, les Libériens ne sont pas des estropiés. Ils sont 11, ils ont les deux pieds, les deux mains, une tête comme nous. Qui est-ce qui aime perdre? On n'a pas perdu. C'est déjà bon.
D'accord. Ok, Didier, est-ce que vous avez aussi l'impression que c'est déjà bon avec ce nul que nous avons fait à domicile?
Non, pour moi, je n'ai pas senti que c'était bon. Parce que l'histoire des matchs nuls, on connaît au Togo. On avait un entraîneur qui était champion des matchs nuls. Je crois que c'était Tom
Sofix.
Et à chaque fois, il faisait des matchs nuls. On n'a jamais été qualifié à quoi que ce soit. Claude Leroy également. Bon, Claude Leroy, avec Claude Leroy, c'est beaucoup plus de défaites. Celui qui a succédé à Claude Leroy, qui est parti, Duarte également, c'est beaucoup de matchs nuls également. Et on n'a jamais réussi à se qualifier à quoi que ce soit. Donc, si on reprend encore avec les matchs nuls, oui, on a raison de s'inquiéter de comment sera l'avenir. In fine, au bout des qualificats, des éliminatoires de la CAN 2025, quel sera le résultat? Quelle sera l'issue? Voilà la question que nous devons nous poser. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde a eu un goût de la dernière fois d'une défaite plutôt que de nous réjouir de ce match nul, comme Godson le dit. C'est pour ça d'ailleurs que, parce qu'on est resté successivement sur des matchs nuls qui ne nous ont rien apporté. Donc tout le monde se disait, on va prendre un nouveau départ avec le nouvel entraîneur qui est arrivé, prendre un nouveau départ chez nous avec une victoire pour aborder sereinement la suite des éliminatoires. Mais on avait cette victoire jusqu'à ce que ce qui est arrivé n'arrivât. Et donc justement, on a les raisons de nous inquiéter parce que nous allons affronter une équipe qui revient de la CAN et qui a fait des misères à de grandes sélections à la CAN. Donc si nous, on n'était même pas à la CAN depuis plusieurs années, et nous, on connaît encore des difficultés d'organisation, de tout ce qui venait de relever. On se permet de rater les occasions où on pourrait avoir la victoire. Je ne crois pas que si nous ne gagnons pas chez nous, c'est seulement à l'extérieur que nous allons aller gagner. Et donc, ça va être terrible pour nous. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on puisse continuer dans la dynamique. Les matchs nuls à l'extérieur, on aurait pu les saluer comme une victoire, comme Gosson le dit. Et quand on vient chez nous, on gagne pour se mettre à l'abri. Mais si on fait des matchs nuls chez nous, qu'est-ce qu'on pourra aller avoir à l'extérieur? Des défaites? Ou encore des nuls? Ou encore quoi? Donc voilà notre inquiétude, et c'est pour ça que nous continuons de dire qu'il faut peut-être travailler dans tous les sens pour que les éperviers puissent naturellement gagner les matchs s'il y a possibilité de les gagner.
D'accord. Jacques, ce que nous avons remarqué la fois passée, c'est que le public est sorti massivement, bien sûr, et pour en quelque sorte retrouver ce premier but, même d'ailleurs, des éperviers du Togo. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que les éperviers, c'est-à-dire les joueurs, ont eu une pression au niveau, surtout alors du public?
Vous savez, Pascal, le football togolais est comme une vache. Qu'un pelé en train de traire le lait, ou bien d'attacher les deux pieds de la vache. Et quand il finit de traire son lait, il veut se lever bonnement, et d'un seul coup, la vache donne un coup à la calebasse et le lait se verse.
Quoi, c'est ce que nous avons assisté le vendredi?
Non, c'est comme ça que je décris le football togolais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer l'euphorie de nos compatriotes qui étaient allés au stade.
Oui.
Très joyeuse, de reprendre encore langue avec les éperviers. Vous savez, un seul mot par rapport au football togolais. Il faut professionnaliser le football togolais, c'est tout. Si on arrive à professionnaliser le foot, on n'aura aucun souci. Laissez les histoires de M. Bodé qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Mais c'est des histoires. Vous vous rappelez de ce monstre de Lotougou et de ce monstre également de... je crois que c'est le quartier ici qui avait dit qu'il est ressuscité. Et tous les Togolais couraient chaque jour pour aller voir et tout.
Le revenant
de Dobiavou.
Voilà.
Quoi, il faut laisser ce genre de choses. Professionnalisons le football. Et nous allons avancer. Mais si nous sommes là, bon, c'est parce que Bodé a dit que s'il verse l'eau, on va gagner. On est dedans et puis finalement, on ne va pas avancer. Professionnalisons le football.
On disait même d'ailleurs que vendredi, Bodé a été la star.
Bon, tout ça là, je vous dis, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé à Dapan avec ce revenant, où les gens prenaient des bus venant de partout dans le monde, le Bénin, le Burkina, le Ghana, pour aller voir le ressuscité. Vous vous rappelez de ça? Et après, il y avait Dobiavou également ici. Vous avez vu? Donc, je crois que ces choses-là, ça, c'est des trucs qui arrivent. C'est-à-dire que les gens veulent se créer des noms. Mais pour réussir, professionnalisons notre football. Reconnaître que ce que Daré a fait la fois passée, il faut quand même le féliciter. Il faut le féliciter. Je crois que doucement, nous allons asseoir un football. Nous allons asseoir également une équipe. Et l'autre aspect, ce que je ne comprends pas des Togolais. Vous êtes là, vous dites que vous aimez votre équipe. Au même moment, vous détestez encore. J'ai vu quelqu'un porter un t-shirt la fois passée au stade qui disait que si tu veux suivre le football togolais, tu risques d'avoir une crise cardiaque. Alors qu'il était assis au stade. Tu es venu pour supporter et tu portes encore ce t-shirt. Finalement, c'est-à-dire qu'on fait une chose et son contraire. Vous voyez? Donc il faut que nous puissions avoir le cœur de supporter effectivement cette équipe. S'il gagne, on applaudit. S'il ne gagne pas, on applaudit. Petit à petit, d'arriver à asseoir effectivement cette équipe et on va avancer.
D'accord. Alors, est-ce que vous ne comprenez pas cette exigence de la part du public togolais à avoir coûte que coûte une victoire?
Comprendre le public togolais, c'est normal. C'est parce qu'il aime son équipe, qu'il a soif des victoires. C'est tout à fait normal.
Mais est-ce qu'on demande de trop?
Non, j'en viens. Moi-même, je suis amoureux des victoires.
Oui.
Je ne veux pas l'échec. Même dans mon domaine, dans ma famille, je ne veux pas de l'échec. Dans tout ce que j'entreprends, je déteste l'échec. Mais ici, je pense quand même qu'il faut faire usage des critères pour apprécier un fait. On ne peut pas parler de défaite pour ce match nul. Ce n'est pas possible. Vous avez suivi tous le scénario qui a précédé finalement la signature du contrat de Nibombé Daré. Tout ce que le monsieur a subi psychologiquement et sur tous les plans, il a réussi à s'instabiliser. Il est resté constant. En le voyant visiblement, ce n'est pas quelqu'un qui devrait ou bien qui a l'intention d'amener notre équipe à la défaite. Non. Il se bat pour la réussite de cette équipe-là. Et je serai parmi ceux qui disent qu'il s'agit d'une défaite, que je m'accuserai plus tard de n'avoir pas fait usage des critères pour apprécier ce match-là. Mais attendez, vous voulez quoi? Que le Togo est le premier à marquer le but et dans les dernières minutes, comment l'appelle-t-on, le Libéria vient égaliser.
Égaliser?
Bon, Jacques a annoncé une métaphore qui cloche très bien, mais tenons-nous bien, ça permet à l'entraîneur de repositionner, de retravailler, de refaire les choses. Il vient d'arriver, il a fait un match nul, son tout premier match. Mais vous l'avez tous dit, le Libéria, ce n'est pas une petite équipe, ce n'est pas un club de 19e division en Australie ou bien en France. C'est une grande équipe. Et on ne peut pas dire que bon, parce que le Togo était. Nous avons vu l'Algérie qui est championne d'Afrique et la CAN qui a suivi, ils n'ont même pas traversé la phase de poule.
Oui.
On a vu le Sénégal qui est champion d'Afrique et la CAN qui a suivi n'ont pas traversé la phase de poule. Donc vous voyez, moi je dis c'est ce match-là, je suis certain que notre sélectionneur avec son staff serait actuellement en train de faire un gros travail. C'est après un match que l'entraîneur fait de mieux. Nous, on a dit, c'est-à-dire que l'optimisme y est. Malgré le nul, on ne peut pas qualifier ce match d'une défaite. C'est vrai, nous sommes tous amoureux des victoires. Mais soyons quand même réalistes et objectifs. Mais est-ce que c'était un but triché, le but d'égalisation? Non. Alors, où est le souci? Le Togo a joué tout le monde à conduire le Togo. Bon, ce monsieur dont vous parlez, moi, je ne vais même pas prononcer son nom, parce que je ne crois pas en ça. Je ne prononcerai jamais son nom.
Sur les inversons le sujet. À supposer que ce soit le Libéria qui est marqué en premier, et c'est dans les dernières minutes que le Togo égalise.
Belle question.
Quelle serait l'appréciation? On
ne
pas le bien généré.
C'est ça.
Qu'on n'a pas.
Allons de l'avant. Ok, d'accord. Alors, oui, Gosson, c'est vrai que cet après-midi, nous avons encore notre match. C'est la deuxième journée, bien sûr, de ces éliminatoires. Et finalement, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de l'équipe à Malabo, en Guinée équatoriale?
Bon. C'est à cette question, je vais te répondre de façon à la Mourinho. Je croise les doigts pour que, comme le week-end passé, le Togo fasse trembler les filets en premier. Et si jusqu'à la mi-temps, l'équipe adverse ne revient pas au score, ça ne nous coûtera rien d'avoir un seul attaquant ou de ne même pas avoir d'attaquant, mais de garer le bus, puisque c'est de la victoire dont il s'agit. Tu auras beau faire circuler le ballon, jongler, dribbler, autre là. Tant que les filets ne tremblent pas, on dira que tu as perdu. Si on arrive à faire trembler les filets là, qu'on fasse tout, milieu de terrain, défenseur, qu'on garde le bus pour préserver ce score. Et si c'est seulement cela que les gens veulent voir, on va le leur servir. Parce que par rapport au temps de la nomination et ce match, je le répète, il y a eu quel travail. Encore que les locaux sont à l'arrêt. Ce qu'on doit éviter de l'extérieur, c'est pendant la trêve internationale qui peuvent arriver. Donc quel temps on a pour se préparer? Le monsieur a un contrat de 3 ans. Il faut vous armer de patience. Si aujourd'hui, de petites équipes évoluent, produisent du bon football, mais elles ne se sont pas levées du jour au lendemain. C'est une œuvre de longue haleine qu'ils ont eu à préparer en coulisses. Et c'est une fois le produit fini, cuit, qu'on voit que, ben, on s'est dit, mais depuis que cette équipe aussi, pendant que nous dormions, quand je prends le Bénin à côté, chaque commune a un terrain de football. En est-il de même pour nous ici au Togo? Il faut que nos championnats cadrent avec les clubs internationaux de façon à ce que les joueurs locaux soient en jambes. Puisque certains disent que pourquoi on n'a pas fait appel aux joueurs locaux? Ils évoluent dans quel championnat? Il faut pouvoir dire les choses telles qu'elles sont.
D'accord.
Quand ça se présente.
D'accord. Dis-y, quand on prend l'équipe alors de la Guinée équatoriale, ce n'est pas aussi une petite équipe. Hein. On a vu sa performance lors de la CAN Côte d'Ivoire tout récemment.
Exactement. L'équipe de Équato, l'équipe équato-guinéenne, ce n'est pas une petite équipe. Comme je disais, c'est une équipe qui avait fait trembler de grandes nations. La Côte d'Ivoire notamment, battue 4 buts à 1 et qui naturellement avait mis la Côte d'Ivoire en sursis jusqu'à ce que le Maroc ne leur permette de se relancer dans la compétition. Et donc, oui, l'ossature de l'équipe va rester la même. Et c'est les mêmes joueurs qui vont affronter nos éperviers aujourd'hui. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens ont, ma foi, contrairement à ce que soutiennent Uriel et Godson, ma foi, les gens ont des raisons de s'inquiéter de la suite de la compétition, parce que nous avons l'Algérie devant aussi. Donc, si on n'arrive pas à battre le Libéria chez nous, on va avoir un match assez compliqué. De toute façon, pas un match facile face à la Guinée équatoriale à Malabo. Ensuite, on aura l'Algérie, alors que nous disons que nous travaillons pour avoir une qualification à l'issue de ces éliminatoires. C'est tout normal pour que des gens s'inquiètent de ce qui s'était passé le vendredi. Maintenant, le vendredi, c'est déjà passé. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Donc, on est déjà là aujourd'hui. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir faire créer une surprise à Malabo? Je dirais oui. Parce que, Gosson salue tellement le coaching de Nibombé Daré.
C'est son ami.
Ouais, puisque c'est son ami.
Il faut ajouter son ami personnel.
Moi, je dirais que notre sélectionneur.
Son ami personnel, on se connaît.
D'aucuns l'ont critiqué un peu sur les dernières décisions qu'il avait prises sur ce match-là. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse composer une équipe à même de pouvoir mettre en difficulté, comme Godson le disait, l'équipe équato-guinéenne. Ainsi, en cas de bon résultat, on puisse sécuriser notre résultat. Parce que c'est ce qui était arrivé la dernière fois. On avait un bon résultat qu'on n'a pas su sécuriser. Déjà, on avait un joueur, l'attaquant, Kevin Denke, qui pesait sur la rencontre et sur la défense libérienne. On l'a sorti, c'était pour le préserver pour le match d'aujourd'hui. Mais vu que la pression n'est plus là, la défense libérienne a monté, on a vu ce qui était arrivé. Donc, qu'on puisse composer l'équipe et faire de bons choix.
de prendre de meilleures décisions qui nous permettraient de sécuriser les résultats qu'on ira avoir là-bas.
D'accord, Jacques, je pense qu'on doit avoir une bonne performance aujourd'hui, hein, mais il faudrait quand même qu'on ait, qu'on fasse alors au sein même d'ailleurs de l'équipe une bonne organisation.
Non, je crois qu'il faut reconnaître quand même que, parlant de l'organisation, le Togo a su toujours bien organiser les choses. Je ne sais pas quelle structure ils ont confié l'organisation du match passé, mais il faut reconnaître que la structure a vraiment réussi l'organisation. Il faut quand même féliciter la structure qui a organisé. Mais je reviens toujours, j'insiste sur le fait de professionnaliser notre football, Pascal. Une image m'a un peu choqué la fois passée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au Mahou, on avait donné quelques secondes de pause où les joueurs devaient quand même prendre de l'eau. Vous avez vu que le staff sortait les cartons de Voltique. Vous voyez que ce n'est pas quand même professionnel. Il faut chercher ne serait-ce que comment on appelle les glacières et mettre de l'eau dans ces glacières. On sort les cartons comme ça et puis tout le monde regarde. Vous voyez que ce n'est pas quand même ça. C'est-à-dire qu'à ce siècle, on ne peut pas évoluer comme ça. Vous voyez, il restait seulement qu'il y avait certains, même, comme je l'ai dit, ça m'a choqué. Il y a d'autres qui ont donné même le piawata. Aujourd'hui, à ce siècle, ce n'est pas normal qu'on puisse encore donner au stade les piawata à des gens. Je crois que professionnalisons la chose. Si vous voulez même les cartons là, cherchez ne serait-ce que les glacières et mettre de l'eau dans ces glacières avant de pouvoir servir quand même nos joueurs. On voit sur le plan international comment ça se fait. Vous voyez même qu'il y a, quand vous voyez l'eau qui est servie même aux joueurs, mais vous avez envie. Mais ici, vous voyez, c'est les trucs qu'on prend, on déchire le carton, on prend l'eau, on va, on donne en même temps aux joueurs. Les joueurs, non,
ce n'est pas professionnel.
Non, ce n'est pas professionnel. D'accord. Professionnel dans notre jeu.
D'accord.
Et pour le match de ce soir, comme vous l'avez si bien dit et que Godson et Dizier l'ont dit, il faudrait que nos compatriotes, c'est-à-dire que les joueurs, c'est-à-dire que les Togolais, dans leur mentalité, dès qu'ils marquent, ils se disent que c'est fini, on a gagné le match. Le match est plié. Et finalement, on laisse tout et à la dernière minute, on égalise. Donc, je crois que Daré a quand même pris les dispositions. Je l'ai suivi, il a parlé. Bon, je crois que le match de ce soir ne sera pas quand même facile. Mais je crois que les Togolais, les joueurs togolais vont donner de leur mieux quand même.
D'accord.
Uriel ? Non, juste sur le repas, l'eau qui suscite inquiétude au niveau de Jacques. Mais je pense que tout ce qui touche au corps d'un joueur est analysé d'abord par leur médecin. On ne peut pas apporter de l'eau à boire aux joueurs tant que le médecin n'est validé.
Je comprends.
Est-ce que c'est une hypothèse, c'est une supposition. Est-ce que ce n'est pas le médecin qui a préféré que ça soit ainsi, un certain Kouvaé? Est-ce que ce n'est pas lui qui a préféré? Oui, c'est possible.
Que qu'on amène dans les cartons.
C'est possible.
Non.
On va aller à l'information.
Mais je ne crois pas que tout ça dise. Je comprends. Déjà dans le carton, je peux en présenter.
Les glacières dont il parle. Le Togo a toujours utilisé les glacières. C'est pourquoi je me pose cette question. Puis c'est la première fois qu'on voit ça. Le Togo utilisait des glacières comme vous le souhaitez.
C'est
pourquoi
pas
c'est maintenant on sort les cartons dans leur état naturel.
Tu as précisé, non, c'est pas naturel.
On continue cette émission avec ce sujet politique, un sujet intéressant, mais maintenant la politique, pour terminer cette émission. Alors, Gosson, c'est vous qui nous donnez ce sujet, c'est par rapport surtout à votre journal Liberté, hein, qui écrit à la une, à sa une ce matin, CNAP, CPC, ces instruments fantoches du pouvoir pour flouer l'opposition. Alors, en quoi ces cadres que nous avons, dont nous avons toujours assisté les travaux, constituent même d'ailleurs des endroits, ou du moins des cadres pour flouer l'opposition?
L'APNAP, le CPC, je me rappelle même plus leur définition. Est-ce qu'ils sont consacrés par la constitution togolaise?
Non.
Voilà. Quand les gens se pressent autour de ces gâteaux, je précise des gâteaux, faut se demander, quand ils vont à ces réunions et ils finissent là, est-ce que ils y vont, ils en reviennent par leurs propres moyens, sans, jetons de présence. Finalement, je me dis, c'est quoi l'urgence? Est-ce le fait de démarcher, d'être présent contre quelque chose, ou alors de s'assurer que le cadre vers lequel on va sera porteur de belles choses, que ce ne sera pas de la cantate du cinéma. Aujourd'hui, moi, j'aurais aimé que on enterre ces trucs dans la 4e République.
Vous les appelez trucs, hein? Et vous voulez qu'on les enterre?
Qu'on les enterre dans la... On soit dans une nouvelle République, non? Qu'est-ce qu'ils continuent de chercher ici? D'abord, c'est des responsables qu'on contacte pour que le lendemain, ils soient présents à ces rencontres. Je ne peux même pas.
Est-ce que ce n'est pas pour maintenir toujours le dialogue entre politiciens?
Un dialogue a des raisons d'être maintenu si ça profite à chaque parti. Mais quand, à l'issue des dialogues, c'est seulement une seule partie qui en tire profit, doit-on continuer d'appeler ça dialogue?
D'accord. Alors, est-ce que vous avez aussi l'impression que ces cadres hein, créés surtout pour le dialogue entre des acteurs politiques, c'est en quelque sorte un non-événement?
Bon, je ne serai pas autant dur que Gosselin. Parce que nous disions tantôt qu'il fallait des gens bâtisseurs de ponts entre des groupes et des franges dans la société togolaise. Si ça avait été des structures comme le CPC qui permettrait à ces structures-là, à ces pans de la société togolaise de se rencontrer, de discuter, de parler du bien-être des Togolais, je ne serais pas contre. Mais maintenant, autant on pourra questionner l'ordre du jour de la réunion. Bon, il parlait par exemple de la manière de convocation de la réunion et tout ça. On peut peut-être trouver toujours à redire autour de cela. Mais sur le principe de dialoguer entre Togolais, moi, je ne suis pas contre. Je pense que le dialogue permettra aux Togolais d'éviter beaucoup de choses. Et vous savez, le vrai souci qu'on a au Togo, c'est que personne ne fait confiance à personne. Donc, si des rencontres de ce genre nous permettraient un jour de nous faire confiance, et quand on te met Pascal quelque part, et que je dois venir discuter avec toi, je n'ai pas des a priori de ce que tu vas me tricher à l'issue de la discussion, et nous nous faisons confiance, et nous savons que quelle que soit la décision qui va être prise, ce sera pas dans ton intérêt, pas dans mon intérêt, mais dans l'intérêt des 8 500 000 de Togolais. L'intérêt de la nation, là c'est normal, et donc moi je suis foncièrement pour le dialogue et les discussions, les concertations, mais maintenant si des gens retrouvent à dire par rapport à la manière de convocation, d'organisation et de dérouler sur des agendas et tout ça, je pense que c'est des choses, c'est des détails qu'on peut rapidement corriger pour mettre tout le monde en confiance pour que le dialogue puisse se dérouler naturellement. D'accord. Moi, je suis pour tout ce qui doit pouvoir nous empêcher de dialoguer sereinement, qu'on travaille à les éliminer assez rapidement. C'est quoi un ordre du jour? C'est quoi une convocation? On peut rapidement réorganiser ces choses pour qu'on se retrouve sereinement à discuter entre Togolais, décider des choses à venir.
D'accord. Jacques, est-ce que vous avez l'impression que, déjà, avec ces cadres, on a des résultats tangibles?
Non, je crois qu'il faut reconnaître le mérite au gouvernement qui fait quand même des efforts pour qu'on sache que certains partis qu'on avait oubliés sont quand même là. Ça, c'est je crois que quand même, il faut leur reconnaître ce principe. C'est-à-dire que les partis qui sont là, au cours des élections, on ne les voit pas. Mais quand il s'agit de dialoguer, ils sont les premiers à aller. Quand même, c'est un mérite du gouvernement qui veut que les Togolais que nous sommes, nous sachions que ces partis-là existent au cours des dialogues. Mais après le dialogue, c'est fini. Les partis-là disparaissent. On ne les voit pas sur le terrain. Je crois que dialoguer, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais comme vous l'avez dit, c'est la finalité du dialogue qui compte. On ne peut pas aller à un dialogue. on évoque des sujets. Après, on revient bon, et finalement, on ne trouve pas des choses qu'on veut. C'est ça le problème. Dialoguer, c'est quand même une très bonne chose. Vous savez, il est important qu'on se parle. Il faut se parler. Mais je crois qu'avant de se parler également, il faut savoir avec qui tu vas parler et quelle est la finalité de ce que vous êtes en train de dire. Si tu dialogues avec quelqu'un, tu sais que bon, la personne, elle est là. comme quelqu'un l'a dit, la finalité, c'est que la personne attend que peut-être un communiqué final par rapport au dialogue. Le dialogue n'a pas de sens. Mais si le dialogue doit déboucher à quelque chose, je crois que c'est une bonne chose. Mais une fois encore, moi j'ai dit, le gouvernement a bien fait de rassembler ces personnes qu'on avait oubliées et qui se retrouvent et qui disent pas le nom du peuple. Avançons, si ça peut nous donner quelque chose.
D'accord. Uriel, est-ce que vous pensez qu'il y a du sincère dans ce dialogue?
Non, il y a du sincère. Il y a du sincère. Nous avons toujours souhaité que le gouvernement, dans ses activités, dans ses actions, prenne en compte les besoins, les avis, les opinions de tout le monde. Nous l'avons dit, on ne va pas se contredire, hein, à mon avis. On ne va pas se contredire. Il y a du sincère. Maintenant, s'il n'y a pas ce cadre de dialogue, où est-ce que le gouvernement pourra écouter les uns et les autres pour prendre en compte leur opinion? Je pense que ces derniers temps, ces formes d'échange, alors, s'ils vont dans le cadre de dialogue et les gens se laissent emporter par autre chose, ça fait leur problème. Avant, il y a quelques années, même le rapport entre le gouvernement et les médias, c'était vraiment tendu, c'était tellement dur. Mais aujourd'hui, il y a des cadres qui ont été créés pour échanger régulièrement avec les médias. Ça veut dire qu'ils prendront en compte aussi nos observations, notre opinion, ce que nous disons de ce qui devrait se faire et on fait autre chose. Moi, comme Didier l'a dit, franchement, dialogue, je trouve ça intéressant. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais fait partie d'un cadre de dialogue. Je ne sais pas concrètement comment ça se passe. Mais je trouve quand même que c'est une bonne chose parce que ça permet aux membres du gouvernement, comme le disait le ministre, comment l'appelle-t-on celui qui est accès universel aux soins, le chef de l'État leur a demandé de prendre en compte les opinions des uns et des autres. Moi, je pense que c'est l'inclusion dont il parle. Et c'est tout à fait normal. Ou bien Godson a peut-être les profondeurs de certaines intentions que dialogue signifie récupération et tout, sinon, en soi, c'est positif.
D'accord. En soi, c'est positif. Nous allons nous en arrêter là pour ce qui concerne le débat et donner aussi la parole à nos auditeurs qui sont à l'écoute, bien sûr, et qui s'impatientent même d'ailleurs à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et c'est sûr que nos deux numéros, 90 86 35 35 ou 91 36 63 75, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
De retour dans cette émission Club de la presse de ce lundi, vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez maintenant nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur que nous avons en ligne, Al.
Bonjour Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Par sa parole et par sa grâce.
Dieu merci.
D'accord. C'est Patrick.
Oui, Patrick.
D'accord. Avant de revenir sur le problème du football, j'aimerais quand même vous dire que en ce moment, je pense que tout ce que nous pouvons faire pour notre Monseigneur Barriga, c'est de prier pour le repos de son âme. Évitons des polémiques, si je le dis ainsi. Le gars est déjà parti. Il a fait sa part. Que chacun de nous fasse un examen de conscience sur sa vie depuis sa naissance pour voir. Qu'est-ce que moi je suis en train de faire présentement? Le monsieur l'a fait, ça pas, il est parti. Ma part, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et le reste, c'est prions pour nous-mêmes d'abord et pour le repos des âmes de Zirus disparus. Deux, je vais parler du football sur le plan physique et spirituel. Vous savez, chaque fois, si on veut accuser un peu le football togolais, on ne parle jamais des joueurs. Est-ce vrai ou faux? Quels sont les joueurs que nous recrutons? C'est vrai. Kessié était venu ici, à Lomé, au Togo. On n'avait pas une équipe en place comme ça. Mais, avec, je ne sais pas si actuellement la fédération, je pèse bien mon moins, je ne sais pas si présentement notre fédération a un DP, un directeur technique. Et son rôle, je vais vous le dire plus tard, c'est très important pour l'équipe nationale. C'est vrai, on n'a pas de championnat. Comment faisons-nous pour recruter ces joueurs-là pour venir jouer? Écoutez, les joueurs libériens ont 2 pieds, comme nos joueurs aussi. Ils n'ont pas 4 pieds, ils ont 6 pieds. Mais comment se fait-il que on a toujours des problèmes? Posez-vous des questions. Ça, c'est sur le plan physique, sur le plan spirituel. Je vais étonner les gens. Hein. Vous savez que, ou bien, comprenez-vous que la dernière fois, au moment de la prise de pierre à Nero, est-ce que vous savez que Boudé s'est invité là-bas? Je dis, je vais étonner les gens, parce que quand le spirituel parle là, c'est ceux qui ont des oreilles qui peuvent comprendre. Est-ce que vous savez que Boudé s'est invité là-bas? Si quelqu'un peut nous donner la recommandation du rapport qui est sorti lors de la prise de pierre là, il y a une recommandation dedans. Je ne sais pas si Gosson peut me le rappeler. Il y a une des recommandations qui crée à ce que Boudé a en train de réclamer.
De payer les dettes?
Très bien. Si vous ne pouvez pas payer, de faire quoi? Si vous ne pouvez pas payer des dettes là, qu'est-ce que vous devez faire? La recommandation, vous faites quoi?
Vas-y Patrick, vas-y.
Voilà, si vous ne voulez pas payer des dettes, allez négocier. C'est ce que vous avez eu des dettes. Si je le dis là, vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Nous sommes en Afrique. Jacques a dit beaucoup de choses. Mais l'ignorant pas, hein, si le général Eyadema a vécu, il a eu crash. Le général n'est pas décédé. En 12-93, on pouvait tirer sur le général quand on a tué Pépé et consorts. Mais le général est sorti indemne. Le président de la République, c'est vrai, il n'est pas... Bon, il plaît croire, mais le chef de l'État croit toujours à ses forces africaines. Je dis quand les spirituels parlent, comprenez ce que je dis.
D'accord.
Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur Niamavo.
Oui, bonjour, monsieur.
Allez-y.
Oui, bon, les personnes même que mon Seigneur se repose en paix. Bon, pour concernant demeure, dernier demeure. Moi, je vais les magasins sur les fermes avec les traditionnels dernier demeure où on vend les cercueils. Je vais les deux un peu pour éviter ces expressifs. Hein, vous voyez que peut-être si on met rien dans toutes les langues, il va chercher à corriger les langues. Par exemple, en Audubon dit Tamar Koraram, ça dit que les gars tuent la façon. On a fait tout la façon. Mais c'est leur associé, ils comprennent. Et c'est donc, on ne peut pas changer, on ne peut pas. C'est comme un élève qui demande à son professeur d'anglais, Thibault, pourquoi on veut partir à l'ouest. Bon, c'est comme ça. On le prend comme ça. On est né, on voit cette expression. Le gars a dit quelque part, après, son corps va se coucher quelque part. Comme il a dit, c'est un débat. Bon, allons au niveau de Louis Persson. Et c'est un mandat là du Togo, hein. Il n'a pas de deux mandats, mais on voit qu'il a l'humanité, surtout sur le tableau de l'histoire. Mais il a enterré avec son œuvre, excusez-moi, parce que il a demandé la limitation du mandat, l'élection a vécu, bon, tout ça là, patatrac, on est dans la 5e République, il a enterré dans la 5e République. Est-ce que celui-là sera content dans ta demeure? Chacun fasse sa part vraiment.
D'accord.
Et concernant Bobé, comme l'a dit quelqu'un, je crois que Diakouti connaît Bobé. Si c'était fake news, Diakouti allait au dossier, c'est fake news. Si Bobé fait comment présenter, dit le fait, personne ne l'accuse, alors là, c'est une réalité. Donc, qu'on fasse un effort pour reconnaître aussi l'Afrique et ses qualités.
D'accord.
Parce que, concernant les plans politiques, le CPDC, tout ça, là, comme on l'a dit, il n'y a pas ça dans la 5e République. Je remercie Diakouti pour son ironie en disant que ça peut reconnaître les partis politiques minuscules. C'est parce que c'est pour se moquer de l'État, et c'est pour se moquer de ces partis-là. C'est très ironique.
Okay. Merci beaucoup, Niamavo, pour votre intervention. Allez.
Oui.
Oui, bonjour. Bonjour, Basile.
Ah.
Comment vous allez?
Oui, tout bonnement.
D'accord, allez-y.
Et vous ne pensez pas que c'est parce que Monseigneur s'est tué sur les dérives de notre pouvoir et il a bien laissé le pouvoir, il n'a jamais gêné le pouvoir que ce Thomas lui a rendu? Vous ne le pensez pas? Bon, moi je le pense. son âme n'a qu'à se poser en paix, mais et qui fait œuvre également, l'accompagne. Parce qu'il y a un archevêque qui a dit, je ne sais pas si c'est Desmond Tutu, ou bien Laurent Moussengo de Zaïre, Desmond Tutu c'est en Afrique du Sud, qui a dit que dans un pays, quand on se tait sur ce genre de dérive, ça, je suis vous êtes du côté de celui qui est en train de commettre le faire dérive là. Parce qu'ici au Togo, on sait comment nous vivons. On vit vraiment dans une précarité sans précédent. C'est ça ici au Togo. Bizarrement, dans le seul petit pays, pas dans les autres pays qui nous entourent. Vous voyez ça? Et puis, il s'est tué, il est là. C'est chaud, tout le monde. Là, il ne m'a rien fait de mauvais. Il ne m'a rien fait de bien. Si mauvais, il y a, c'est parce qu'il s'est tué. Il n'a jamais gêné le pouvoir. Maintenant, le football, on revient de très loin. On doit aller pas à pas. C'est notre frère, c'est maintenant qu'on lui a accordé cette confiance. Il faut que nous tous. Moi, je ne suis pas pour le foot, hein, parce que je dis que le foot seul ne va pas marcher et nous, on sera là en train de chenille dans le pays. Voilà. Mais comme c'est un frère, on a à voir qui, au fur et à mesure que les frères vont venir prendre là, est-ce que ça va aller ou pas? Donc là, on n'a qu'à aller pas à pas.
D'accord.
Le vieux, moi, j'ai dit. Si moi je veux venir m'afficher, si on me donne ça, on va gagner. Si on me donne, et puis on ne gagne pas. Moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais si le gouvernement même, ou bien la FPF même, sait qu'il doit à ce vieux, ils n'ont qu'à lui donner, mais il ne faut pas qu'il lit ça à la victoire et autre. Moi je ne suis pas d'accord avec ça.
D'accord, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Basile. Vous avez été relativement long. Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Monsieur Mauto.
Oui, Monsieur Mauto, allez-y.
Salut le plateau.
Le plateau aussi.
Par rapport au football. Par rapport au football. Et bon, matinée à la maison, c'est une défaite. Hein. Ne nous parlons pas là-bas, c'est une défaite. Moi, j'ai l'impression que l'aide des Togolais ne devait pas l'avancement du football au Togo. Le problème se pose tout de suite. Pourquoi ne pas résoudre ce problème-là? En plus, parce que le chef de l'État, Monsieur Bordé, on doit interpeller ce monsieur pour l'écouter. Non, pas du mal, hein. Pour le coup, ce qui se passe au juste là. Lorsque vous avez endetté sur Satan, vous devez payer la dette au Satan. Même si Dieu, on paie ça, c'est Dieu. Il y a des personnes qui est rentré là-bas. Je vois que la vie est mentie. On a qu'à interpeller M. Bordet pour savoir ce qui se passe au juste. C'est pas bien. Bonne émission.
Allez, bonne journée à toi, M. Mauto, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allez.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oh, je vais vous dire, c'est l'évangéliste Senghor. Hein?
Ah, l'évangéliste Senghor.
Ouais, mon frère.
Mais ça fait longtemps.
Ah, bon, vous savez, quand on intervient, puis rien ne change là, ça décourage. Hein?
D'accord, allez-y maintenant.
Bon, je voudrais vraiment m'intéresser à l'hommage quand même de Bariga. C'est vrai, c'est un privat qui a travaillé, c'est bon. Et là, le gouvernement de faire filmer là, c'est une bonne chose, c'est améliorer le pays. Mais pourquoi on va faire l'hommage à Bariga et on ne fait pas l'hommage à Monseigneur Pedro? Bon, voilà que Monseigneur Pedro, le monsieur qui a prédisé. Ah, qui a prédisé la conférence nationale en 98 et en 91. Un monsieur qui a souffert. Il a l'habitude de dire que le projet nous appartient à tous. Soit quelqu'un qui parle de son pays, aime son pays. Bon, c'est vrai, dans la violence sociale qui commence, c'est une chose là et là. Mais comment est-ce que vraiment, aujourd'hui, Bariga fait à son âme, et tous les pouvoirs de notre religion, c'est notre grand-père, c'est tout. Donc, comment est-ce qu'il peut même présenter des demandes à ce monsieur et être devant les dieux même? Ce qui veut dire que l'être devant les dieux même n'est pas ce dieu-là. Vous voyez, non, ça veut dire que je ne suis pas le dieu, c'est le dieu quand même. Deuxièmement, le problème de Bori, vous savez, je suis un homme de Dieu, je suis un évangéliste, la Bible nous dit, remettez à César ce qui est César et à Dieu ce qui est Dieu. Voilà, maintenant, Bori, tu réponds, il y a 25 millions. Bon, est-ce que le Seigneur manque les 25 millions aujourd'hui, les gens de milliards dans leur somme, les gens de milliards partout? On ne peut pas quand même remettre l'argent là et le dire, monsieur Bori, on t'a remis 25 millions. Bon, maintenant, on t'attend maintenant.
Il y a la puissance africaine.
D'accord, merci beaucoup, Evangeliste Senghor. Nous allons recevoir notre dernier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est
Abdel.
Abdel.
Oui, Abdel.
D'accord, allez-y.
Vous voyez, personne ne critique le travail de notre nouveau sélectionneur qui vient d'arriver. Il n'a pas encore eu le temps de mettre en place ce dispositif. Mais moi, ce que je vais proposer à la fédération, qui, en quelque sorte aussi, a le pouvoir ou bien le droit de faire changer les choses, c'est de refaire carrément l'équipe nationale. Que le nouveau sélectionneur ne compte plus sur les anciens joueurs là. Qui sont dans l'équipe, il n'aura aucun résultat qu'il essaie de dénicher parmi toutes les équipes des nouveaux qui peuvent porter haut le flambeau du football togolais. Alors, concernant le CPC,
oui.
Vous savez, les Chinois ont l'habitude de dire que ceux qui discutent ont les moindres chances de se battre. Le dialogue doit être la vertu la mieux partagée par tous. Et je pense qu'à un certain moment, ça donnera quand même un résultat. S'ils pensent qu'il n'y a pas encore de résultat, peut-être que les résultats ne sont pas visibles et que nous ne voyons pas. Mais quel qu'en soit le cas, hein, le dialogue doit être la vertu partagée par tous.
D'accord.
Merci.
Merci beaucoup, Abdel, pour votre intervention. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Uriel, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Je m'intéresse à l'auditeur Basile, selon qui, si des hommages de grandeur ont été rendus à fait Monseigneur Bariga, c'est parce qu'il n'a pas perturbé le pouvoir. Apparemment, nous ne suivons pas les choses de la même façon. Vous savez, Monseigneur Bariga, il fait partie de la conférence des évêques du Togo. Et à chaque événement, moindre événement, la conférence réagissait. Donc, ou bien il fallait dire tout simplement que c'est une réaction qui appartenait au seul archevêque. Non! Il fait partie de la conférence des évêques du Togo. Tout ce qu'il y a eu comme événement au Togo, éducation, sécurité, tout ce que nous avons connu, la conférence réagissait. Il voulait quoi? Bon, comme Didier, en réaction à mes propos, le disait, qu'on lui a rendu hommage par rapport à ce qu'il a été à la tête d'une institution de la République. Et donc, moi, je ne vois pas le fait, je ne comprends pas. Qu'ils disent que c'est parce qu'il n'a pas perturbé le pouvoir, c'est pourquoi on lui a rendu. Non, il méritait ses hommages, c'est
d'accord.
Pourquoi on lui a rendu.
Je reste avec toi pour votre note, hein, pour votre note à l'heure de fin d'émission.
Alors, une note ou un constat, une note, bon, j'attribue 4 sur 10 à ce service à qui l'autorité a chargé hein, d'implanter le feu de l'ordre d'Atikoumé. Je vous assure, si vous implantez les feux tricolores, si ce n'est pas que nous aimons la médiocrité, les feux verts s'allument si vous venez de Kilkame. Et les mêmes feux verts s'allument si vous venez d'Adidogomé. Et vous vous croisez au rond-point. Les véhicules se coignent, les motos se coignent, les policiers sont là-bas.
Beaucoup en parlent.
Mais finalement, c'est quoi on fait à ce carrefour-là? Il ne faut pas qu'on encourage la... C'est des trucs qui coûtent très cher. Mais quand on le fait, et ça occasionne des accidents, franchement, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Ce grand carrefour, il faut, si c'est la mairie qui s'en charge, si c'est le ministère des Travaux publics qui s'en charge, il faut quand même mettre à point ces feux tricolores-là. Sinon, ce n'est pas bien.
4 sur 10. D'accord, Jacques.
Non, je crois que, comme vous l'avez si bien dit, on a beaucoup parlé de ces feux tricolores au niveau d'Atikoumé. Moi, je voudrais simplement attirer l'attention du ministère de la Sécurité sur un fait. J'ai suivi un reportage sur un média privé qui m'a un peu choqué. Mais bon, vous savez, où on dit que c'est des ressortissants qui ont donné un ordinateur à un commissariat dans un, dans, Je crois que dans une ville dont je préfère taire le nom.
Un ordinateur.
Oui, un ordinateur, un commissariat, au Togo. Oui, et puis on fait un reportage, on passe sur un média. Je crois qu'il faudrait que le ministère de la Sécurité prenne quand même ses responsabilités. Je ne pense pas que le ministère de la Sécurité ne puisse pas acheter un ordinateur pour un commissariat et que c'est les ressortissants qui achètent un ordinateur et qui vont donner un commissariat. Je crois que ce n'est pas le rôle de quand même des ressortissants, mais eux, ils l'ont fait parce qu'ils disent que c'est un constat, ils ont remarqué. Je crois qu'il faudrait que le ministère de la Sécurité prenne ses responsabilités. Et puis l'autre aspect, vous voyez, dans ces temps-ci, on voit un peu partout deux cahiers, on dit que c'est au nom du chef de l'État, deux bics quelque part, on dit on le fait au nom du chef de l'État. Je crois que Faure Gnassingbé, c'est quand même une personnalité. C'est notre président, nous tous, quand même qu'on puisse protéger son image. On ne peut pas aller avec deux cahiers de 300 et deux bics, peut-être de 25 francs, et on dit on vient, on donne ça au nom du chef de l'État. Quand même, faut qu'on, comme un ancien combattant le disait, un peu de quand même dans ce que nous faisons.
Votre note de fin d'émission?
Non, je, pas de note, c'est ce que je voulais dire, attirer l'attention des uns des autres par rapport à ce fait.
Merci beaucoup, Jacques. Et Didier?
Non, moi, je dirais que, toujours sur notre football, je dirais que le football, ma foi, ça se joue à plusieurs niveaux. Gosson disait que des gens travaillaient pendant que nous on dormait, on n'a pas de championnat en cours et qu'on se débrouille à faire venir des joueurs, ils vont jouer sur le terrain. Mais il y a d'autres choses qui se passent derrière. Il y a le football sur le terrain, en dehors du terrain. Donc moi, je fais appel aux hommes de Dieu à l'écoute. Là, il y a un qui nous a appelé, l'évangéliste, de mobiliser ses amis, ses collègues, hommes de Dieu, pasteurs, en attendant qu'on rembourse sa dette à Baudet, si c'est lui qui cadenasse notre football, que des hommes de Dieu prient pour que des éperviers du Togo puissent gagner aujourd'hui pour naturellement nous donner encore du boom au cœur. Le pays en a besoin, nous tous nous en avons besoin. Après, bon, Jacques disait quelque chose, que des ressortissants ont donné un ordinateur à un commissariat. Bon, après, c'est compliqué. Si vous habitez dans des contrées où l'État n'est pas là, où l'État, vous avez l'impression que l'État vous a abandonné.
Mais il y a aujourd'hui la décentralisation.
Non, vous savez, par exemple, moi je dis, des gens vont solliciter un service et qu'il n'y a pas d'ordinateur. Moi, il m'est arrivé, moi j'ai été victime d'un cambriolage. Je suis allé au commissariat, on m'a dit de faire une déclaration. Le gars écrivait à la main. Bon, si j'avais un ordinateur, entre-temps, je lui aurais donné pour qu'il puisse rapidement me libérer. Le gars, on était deux à faire les déclarations. Le gars écrivait au BIC, tout ça, le constat, il écrivait, il te pose des questions. Mais à un moment donné, il est fatigué, tu es fatigué. Si on peut lui donner un ordinateur en tant que citoyen, oui. Parce que l'État, en attendant que l'État n'apporte l'ordinateur, les gens souffrent, les gens sont fatigués de l'absence de l'État et du manque de réactivité de l'État des fois. Donc, je ne dis pas que ce que Jacques dit n'est pas bon. Mais c'est pour expliquer à peu près ce qui amène des gens à se
confier. La réalité sur le terrain.
La réalité sur le terrain. Donc, il faut que l'État y a.
D'accord.
Il faut que l'État y soit. Et que également, bon, ok, puisque des gens parlent au nom de l'État, surtout du chef de l'État, avec les deux cahiers, les deux bics. Bon, si on peut au moins nous faire l'économie de ça aussi.
D'accord, ok. Votre note de fin d'émission, rapidement.
Non, il n'a plus
de mots. Il n'a plus de mots. D'accord. Ok, oui. Gossem.
Oui. Par rapport au cas Baudet, dont je ne voulais pas donner le nom, je suis révolté que pour 25 millions, au cas où c'est avéré, on fasse ce qu'on est en train de voir aux éperviers. Puisque dans notre même pays, rappelez-vous la route Lomé-Vogan, un ministre s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour justifier le fait que l'attributaire qui doit exécuter les travaux avait utilisé les 26 milliards pour acquisition de matériel. Le monde n'avait pas changé. Et c'est passé comme
une lettre à la poste. D'accord.
C'était le ministre qui a bien dit ça.
D'accord.
Donc, qu'on résolve le cas Baudet. Ensuite, pour ceux-là qui voudraient qu'on refonte l'équipe nationale,
oui.
Il faut qu'il précise.
C'est Abdel qui a fait la proposition.
Voilà, Abdel. Il faut que ça soit fait de manière à ce que nos championnats cadre avec ce qui se fait à l'international.
D'accord.
Autrement, le sélectionneur ne pourra prendre que ceux qu'il a sous la main.
Merci beaucoup, Daniel. Merci Jacques. Merci Didier. Merci Godson d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dacoutia. Je suis Pascal Lesous. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien.